Le masque et la plume. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce dimanche 21 juin, jour de la fête de la musique au Théâtre de l'Alliance Française, malheureusement encore sans public, pour un masque et la plume consacré à l'actualité littéraire avec Olivia de Lamberterie, duel, le vénérable Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française, Arnaud Vivian de Transfuge, de Regard et du Nouveau Magazine Littéraire, et d'un revenant, Frédéric Becbédé du Figaro Magazine, à qui je ne peux m'empêcher de poser quelques questions liminaires. Comment, Frédéric, est-ce qu'on peut souhaiter, vouloir revenir au masque et la plume après avoir écrit Fus avec un smiley en couverture, un roman si cruel et si injuste pour France Inter? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal là-dedans?
J'ai écrit un roman satirique, c'est vrai, mais qui reste une fiction.
Ouais, mais moi je connais des consoeurs ici à France Inter et des confrères qui ont été vraiment blessés au sens propre par ton livre. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire?
Sincèrement, s'il y a des gens dans cette radio qui ont souffert par ma faute, alors je le regrette, car tel n'était pas mon but. Moi, j'écris des romans sur mes propres expériences, pour me moquer de moi-même, mais certainement pas pour faire de la peine à des personnes réelles. Donc je le déplore. Je salue France Inter pour son fair-play de m'accepter de nouveau ici, tel l'enfant prodigue.
Eh bien, avec l'enfant prodigue, on parle ce soir d'un classique Belle de jour de Joseph Kessel, de l'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker, qu'Arnaud Vivian voulait absolument lire en priorité, de Requiem pour une ville perdue d'Asli Erdogan, d'un mariage en 10 actes de Nick Hornby, et de la commode au tiroir de couleurs, je dis bien la commode au tiroir de couleurs, de la chanteuse préférée de Crépu, qui est Olivia Ruiz. Sans oublier vos précieux conseils en fin d'émission. Dans le courrier de la semaine, Christine Chivalon, qui est chercheuse au CNRS et spécialiste de l'esclavage, reproche au masque et la plume de ne pas avoir assez pris conscience, avec autant en emporte le vent, du profond drame humain qui installe la barbarie au cœur de notre modernité occidentale, aujourd'hui globalisée. Au contraire, Jean-Paul Dutheil dit avoir adoré Autant en emporte le vent quand il était adolescent. Je vais vous étonner, mais je ne le trouve pas méprisant, ce livre envers les Noirs. Certes, il cache les aspects les plus sordides de l'esclavage, mais ceux qui tentent de violer Scarlett sont des Blancs. Les commères d'Atlanta sont ridicules et Scarlett et Red Butler sont des cyniques. Monsieur Gautron est d'accord avec Jean-Claude Raspienjaz dans Autant en emporte le vent. Le racisme et le traitement des esclaves n'est pas le fait de Margaret Mitchell, mais de la représentation d'une époque. C'est un grand roman que je conseille à tous. Pour Marie, il ne faut pas lire ce roman inégalé à l'aune des problèmes raciaux actuels. Et il ne faut pas débiner Scarlett, personnage merveilleux, poignant par son désir de lutter contre le vent de l'histoire, qui a déclassé sa famille. Pour Sonia Lefebvre de Nice, qui a elle-même traduit beaucoup de textes anglais en français, il faut être au plus près du texte source. Cette nouvelle traduction, donc, qui paraît, je le rappelle, chez Gallmeister, où nègre devient noir, fait du politiquement correct, et l'auditrice répond à Olivia en disant que non, Scarlett n'est pas une petite gâtée capricieuse, mais une femme courageuse et déterminée, et non, Clark Gable ne ressemblait pas à une pantoufle, en tout cas, nous dit Sonia Lefebvre, pas aux miennes. Enfin, Mélanie Lenoir de Saint-Brieuc remercie le masque d'avoir abordé le sujet très pénible de la traduction des paroles des esclaves noirs dans les romans américains. Je relis pour l'instant le formidable roman d'Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, où le traducteur a cru bon d'enlever tous les R de certains dialogues. Je ne vois pas l'utilité de cette traduction qui ridiculise le personnage et rend la lecture très pénible. Depuis d'ailleurs qu'on en a parlé de Autant n'emporte le vent au masque et la plume, je précise que le film de Victor Fleming, qui était sorti en 1939, qui est qualifié par des historiens de révisionniste, a été retiré provisoirement de la plateforme de streaming HBO en plein mouvement de protestation contre le racisme et les violences policières aux États-Unis. Rien à ajouter sur Autant en emporte le vent, ce qui était là, Arnaud ou Olivia?
Moi, je suis toujours contre les interdictions des œuvres, quelles qu'elles soient, des films ou des livres. Mais en revanche, je maintiens qu'il est impossible de lire ce livre avec des yeux qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui et qu'il y a dans ce livre les racines du mal de l'Amérique d'aujourd'hui.
L'affaire HBO me semble quand même très... Il y a quelque chose qui n'est pas très clair au niveau de l'information. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont retiré momentanément pour le recontextualiser, c'est-à-dire mettre un avertissement. C'est des choses qui se font très couramment. Hein. On voit à la télévision tout le temps des avertissements. Attention, des scènes violentes, etc. Je ne vois pas pourquoi recontextualiser le film soit un véritable problème. Et par ailleurs, comme tu l'as dit, on ne peut lire qu'avec les yeux d'aujourd'hui. On ne peut pas voir les yeux du passé. Et d'ailleurs, de quel passé? De la guerre de sécession ou de 1938 lorsque l'ouvrage paraît? Là aussi, où est le contexte exactement? Au moment de la parution ou le contexte même de l'histoire? On ne peut pas s'en sortir comme ça. Et d'ailleurs, je pense que si la critique de ces chefs-d'œuvre du passé a un intérêt, c'est bien pour en faire une relecture actuelle.
Et on commence avec un classique, c'est Joseph Kessel, dont la Pléiade publie en deux volumes sous la direction de Serge Linkès les romans et récits, parmi lesquels évidemment Le Lion, La Passante du Sans-Souci, L'Armée des Ombres, Les Cavaliers et Belle de Jour, un roman qui fit scandale à sa parution en 1928 car il racontait l'histoire d'une bourgeoise faisant l'expérience de la prostitution. Séverine, l'héroïne, est mariée à un chirurgien qu'elle aime mais avec qui elle ne connaît pas le plaisir. On lui parle alors d'une maison de rendez-vous où travaille pour se faire de l'argent des femmes plutôt de la bonne société. Séverine pousse alors la porte de ce bordel chic où elle devient de 14h à 17h Belle de Jour. Tout va bien, si j'ose dire, à la seule condition qu'on ne la reconnaisse pas. Vous imaginez bien que ça va plutôt mal finir. Roman que Buñuel a porté à l'écran en 1967, avec Catherine Deneuve dans le rôle de Belle de Jour, Geneviève Page, qui était la patronne du CLAC, mais aussi Michel Piccoli et Pierre Clémenti. Puis il y a d'autres livres qui ont paru autour de Kessel, mais je vous en parlerai après. Michel, est-ce que tu as relu Belle de Jour?
Alors, je dois dire en toute honnêteté que j'avais complètement oublié que Belle de Jour était d'abord un livre de Kessel et pas le film de Buñuel. Pour moi, c'était le Buñuel et il n'y avait pas le Kessel. Donc ça a été vraiment une découverte de lire ce livre, que je trouve très différent d'ailleurs du traitement buñuelien. J'ai été très impressionné par le fait que aujourd'hui on n'écrirait absolument plus une telle histoire de cette façon, avec tant de dorures. Il y a une atmosphère un peu, pour prendre des comparaisons cinéphiliques, un peu viscontienne, je trouve, dans le livre, qu'il n'y a pas dans le film de Buñuel. Et ça m'a beaucoup impressionné, cette manière de, à l'époque où Kessel a écrit ce livre, c'est comme si Kessel demandait au langage de tout restituer de ce qu'il voit, de ce qu'il observe, de ce qu'il analyse. Il y a vraiment une richesse d'interprétation, une richesse de traitement dans ce livre que je n'imaginais pas.
Olivia.
Moi, j'adore. Moi, je l'avais lu à 20 ans, je l'ai relu. De toute façon, j'adore Kessel.
Mais toi, tu prends tout Kessel, toi.
Je prends tout Kessel. Le seul problème de Kessel, c'est qu'il est trop photogénique. Et que, du coup, les images, la légende, les verres cassés ont pris le pas sur l'œuvre. Mais à chaque fois que je relis Kessel, je trouve ça sublime. Le petit album qui paraît dans la Pléiade...
Magnifique. Oui, parce qu'avec les deux volumes de la Pléiade, il y a également, il faut le préciser pour les auditeurs, un album très bien fait, très illustré,
magnifique. Magnifique, photo magnifique, mais texte de Gilles Ray magnifique, ouais. Qui raconte les circonstances de la publication de Belle de Jour, en disant un truc que je ne connaissais pas, qui est assez amusant. Lorsqu'il l'écrit en 1928, Kessel est en Suisse avec sa femme, Sandy, qui a attrapé la tuberculose, et il demande à Gaston Gallimard d'aller enquêter pour lui dans une maison de rendez-vous du Faubourg Montmartre. Et il paraît que dans le journal de Roger Martin Dugard, il raconte qu'on a croisé Gaston Gallimard, mais qui est en fait juste, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il était
enquêté.
Voilà, il était en embuscade pour Kessel. Il y a des phrases également géniales de la critique qui éreintent le livre en disant que c'est
pour
un...
Pour des raisons morales, il faut dire. Hein.
C'est un défi au bon sens et à la propreté. Est-ce que cette phrase n'est pas géniale ? Moi, je trouve que le livre est d'une modernité passée l'apparat. Aujourd'hui, on dirait plus une maison de rendez-vous. Le vocabulaire a un peu vieilli. Mais je trouve que la complexité de cette femme est absolument prodigieuse. Parce que c'est vraiment une femme qui découvre en elle comme une sorte de bête sauvage à qui elle est totalement étrangère et qui doit faire avec cette aberration, mais qui adore son mari. Et Kessel avait été obligé de faire une préface en disant que c'était un livre sur l'amour. Et je trouve qu'il a raison. C'est un livre sur l'amour. Chaque personnage marche. Le mari est génial. Le Husson.
Alors c'est qui le était seul... joué par Piccoli dans voilà. le film.
C'est le seul personnage que, lorsqu'on relit le livre, c'est impossible de ne pas voir Piccoli. Oui. Mais qui en fait d'ailleurs un personnage à la fois.
On pense beaucoup à Catherine Deneuve aussi, quand même, que,
ah oui.
pour mettre le jour.
Oui, hein. Le cinéma a gagné dans cette histoire.
Mais non, je trouve que c'est un des rares objets où le livre et le film se valent pour des raisons différentes. Mais le personnage de Husson est absolument génial. Et la dernière phrase du livre vaut, à mon avis, tout. C'est-à-dire qu'on lit cette dernière phrase et on sait que Kessel est un immense écrivain.
Frédéric ?
On ne dirait pas du Kessel dans ce que moi j'imagine.
Parce qu'il a fait plein d'autres choses que les reportages et que les cavaliers.
C'est un roman à part dans l'œuvre de Joseph Kessel parce que d'habitude c'est le souffle, le panache, les
L'aventure.
Cavalcades, la steppe de l'Asie centrale.
Oui, les grands espaces,
les cavaliers.
Et là, c'est une histoire
aussi
d'adultère bourgeois, quoi. C'est Madame Bovary qui va au bordel l'après-midi.
Enfin, elle est plus complexe que ça, Belle de Jour, je trouve. Ouais.
Mais je veux dire.
C'est pas mal résumé.
Je trouve que c'est un livre vraiment à part, peut-être avec La Passante du Sans Souci. Mmh. C'est deux livres un peu à part de Kessel. Non, moi j'ai adoré le côté Fifty Shades of Grey avec la langue de Colette. Évidemment, c'est le rêve absolu. C'est très pervers. Il y a des scènes... évidemment, on ne peut pas faire abstraction de Catherine Deneuve. La première fois qu'elle se déshabille devant Mathilde et Charlotte dans le salon et qu'elles sont émerveillées par son corps... Je ne pouvais pas m'empêcher de voir Catherine Deneuve nue. Je pense que c'est vraiment un livre courageux pour l'époque. C'est un romancier qui parle de la libération de la femme par la jouissance. Et il fait exactement en fait la même chose que D.H. Lawrence, la même année, 1928, avec L'amant de Lady Chatterley.
Bon, Arnaud.
Kessel, c'est un moment très intéressant dans l'histoire de la littérature et dans l'histoire de Gallimard. C'est l'introduction du journalisme en littérature. À ce moment-là, Gaston Gallimard publiait un journal qui s'appelait Détective et on voit bien le rapport. Et il y a quelque chose là d'une sorte de journalisme des bas-fonds. Le côté bordel de luxe, c'est pas évident parce que ce qui est très beau dans le livre, c'est qu'il y a une géographie très particulière. C'est uniquement dans le premier et le deuxième arrondissement. Tout se passe autour de Notre-Dame, les Halles,
le Louvre,
le Palais Royal,
l'Hôtel Dieu, etc. Et c'est pas du tout des quartiers chics à l'époque. Et d'ailleurs, ceux qui fréquentent le bordel en question ne sont pas spécialement des gens chics. C'est pour ça d'ailleurs que des truands vont venir. C'est d'ailleurs aussi la rencontre d'une bourgeoise avec des prolétaires et qu'il y a un rapport de force là qui lui plaît. Hein, c'est que elle est prise comme une bête. Ce qu'on voit très bien, c'est qu'on est en 1928 et qu'on est à l'aube du freudisme aussi. Il y a quelque chose. On sent à un moment l'ombre de Freud planer sur ce livre. Et c'est vrai que c'est totalement à part dans la production de Joseph Kessel. Il y a quand même 40 ans entre la publication du roman
et le film.
C'est énorme comme espace. Et d'ailleurs, il me semble, moi, évidemment, le film parasite complètement la lecture. Hein, on est obligé. Et il me semble d'ailleurs que le film est beaucoup plus cru, qu'il y a des scènes sadomasochistes qui ne sont pas dans le roman.
Il y a des idées de sadomasochisme dans le roman. Si, si.
Il y en a une. Un moment, mais c'est
mais
très,
film,
très suggéré.
C'est pas... explicite, effectivement.
Oui, dans le film, c'est très clair.
Je suis pas certain qu'il y aurait pas un scandale encore aujourd'hui si on publiait ce livre. La première scène, elle a 8 ans.
À l'automne dernier, des gens qui ont été très choqués par le livre d'Emma Baker sur sa...
Le livre de... Le premier roman de Leïla Slimani qui racontait l'histoire d'une
nymphomane.
Oui, ça n'a pas spécialement choqué et pourtant, ça y allait.
Belle de Jour, c'est donc Joseph Kessel, c'est dans cette double pléiade augmentée d'un très bel album illustré sur Kessel. Et je signale, surtout pour Olivia, qui est la Kessel Woman numéro 1, Un amour de Kessel, de Dominique Messicaoseille.
Je l'ai lu, bien sûr.
Sur les amours de
avec
de
Germaine
Kessel,
Sablon, avec qui est une femme absolument
incroyable,
géniale.
Incroyable, actrice résistante Germaine Sablon. Il y a pour Arnaud, le grand reporter Kessel, c'est-à-dire grand reportage en mer rouge chez Artaud, préfacé par Étienne de Montetti. Et puis alors, pour ceux qui aiment le cinéma, il y a un document inouï, ça c'est pour Frédéric, c'est aux éditions du Sonneur, Hollywood Ville Mirage, reportage de 1936 de Kessel dans la ville cinéma. Et là, on voit, comme disait Arnaud, que c'est non seulement de la littérature, mais aussi du grand journalisme.
Ouais. J'ai commencé à lire dans la Pléiade L'Armée des Ombres. C'est fabuleux. Là aussi, c'est parasité par le film, mais quel grand livre.
Toutes les notations sont très intéressantes dans la Pléiade. Il faut le dire, ils ont vraiment... Par exemple, sur Belle de Jour, ils élaborent une théorie selon laquelle c'est peut-être Kessel qui est le personnage de Belle de Jour.
Je vous rassure, évidemment, si vous n'avez pas les moyens, il y a Kessel en poche partout. On peut l'avoir vraiment pour pas trop cher. Allez, on change de style pour en venir au numéro 1 des ventes. Même devant Guillaume Musso, ce qui a fait beaucoup de peine à Olivia, je veux parler de l'énigme de la chambre 622 aux éditions De Fallois. Le nouveau best-seller estival et cinquième roman du jeune Suisse Joël Dicker, l'auteur de La vérité sur la Ferrari Kéber, qu'on surnomme désormais, ça j'ai lu ça dans Le Monde, le fédéraire de la littérature. Et la chambre 622... Mais tu comprends vite, Frédéric. Et la chambre 622, c'est celle du Palace, de la très chic station de Verbier, en Suisse, dans le Valais, où un meurtre a été commis et n'a jamais été élucidé. Un palace où 15 ans plus tard, on est donc à l'été 2018, se rend un écrivain en deuil de son éditeur. Alors évidemment, vous allez vite comprendre que cet éditeur, c'est Bernard de Fallois, qui est mort effectivement en janvier 2018. Écrivain menacé par le syndrome de la page blanche, mal remis d'un chagrin d'amour et escorté d'une certaine Scarlett qui n'est pas la Scarlett O'Hara de Margaret Mitchell. Bref, l'écrivain c'est Joël Dicker, on lui donne la chambre 623 qui succède, tu te rends compte Michel, à la suite 621.
Que j'ai bien connu.
Mais, voilà, pas de chambre 622. Mystère, comme dirait Gaston Leroux de la Chambre jaune. Alors, qui a été tué? Qui a tué? C'est le début d'un roman de près de 600 pages. 600 pages, où il sera beaucoup question des banques privées suisses, de succession et d'adultère. Olivia, c'est 590 pages, disons, tu les as lues.
Oui. C'est un roman extraordinairement sympathique, je trouve, parce que il est très...
L'auteur est sympathique
et le roman est illuminé par la dévotion, l'admiration, l'affection que Joël Dicker portait à Bernard de Fallois. Il raconte comment il est devenu cet auteur à succès.
Qu'il a découvert,
qui n'en voulait pas, qui trouvait que son livre était nul, qui peut-être l'a aidé d'ailleurs il dit qu'il a beaucoup retravaillé avec lui.
Éditeur qui était un spécialiste de Proust.
Qui était un grand éditeur de Marcel Pagnol.
Qui a écrit un livre merveilleux sur Proust.
Et qui était un personnage absolument charismatique et incroyable. Mais en ce faisant, je dirais qu'il se tire un peu une balle dans le pied, Joël Dicker, parce que c'est un livre qui, pour moi, manque dramatiquement d'un éditeur. Bon, l'intrigue, alors vous savez, moi j'aime pas tellement les polars, ça m'intéresse pas tellement de savoir qui a tué. Alors là, ça m'intéresse encore moins, parce qu'en fait, on sait pas qui est mort.
On sait pas qui a tué, qui
alors,
est tué.
Je trouvais que l'intrigue policière me semble quand même assez légère. Et puis surtout, le problème du livre, qui encore une fois est plaisant à lire, je l'ai lu jusqu'au bout, c'est plaisant. Et c'est complètement improbable. Je peux pas vous dire, c'est une histoire de banquiers suisses, alors je suis pas familière des banquiers suisses. Mais quand même, c'est des banquiers suisses qui parlent comme des stagiaires de M6. Hein. Donc c'est deux banquiers suisses qui sont en rivalité pour devenir super banquiers. Je vous résume le livre. Donc, à un moment, celui qui est sur la touche rencontre l'homme qui va le nommer, ou pas, à la tête de la banque. Le dialogue est extraordinaire. Ils sont dans la banque, dans la banque, dans le bureau, et il va essayer de dégommer son rival. Alors il dit, regarde, il n'ouvre même pas son courrier. Regarde tout son courrier. Alors on se dit, oh merde, alors les banquiers suisses, ils ouvrent même leur courrier. Alors l'autre dit, ah bon, il n'ouvre pas son courrier, mais c'est pas bien. Pourtant, il m'avait fait très bonne impression. C'est écrit comme ça. C'est improbable. La résolution de l'intrigue, que évidemment je tairai, Je sais pas, c'est comme qu'est-ce que je pourrais dire sans lâcher le truc. Non, je peux rien dire. C'est comme dans le Club des Cinq, ça ne marche pas du tout. Et puis après, c'est écrit, il y a des phrases folles. Dimanche arriva finalement. Moi, j'adore cette phrase. On a envie de dire, bah oui, Joël, nous, on le sait, le dimanche, ça arrive toujours. Finalement, le dimanche arrive. Dodo, elle sut qu'il était beau. Ça, j'aime bien aussi celle-là, Dodo. Bon, et le livre pourrait vraiment gagner à être mieux. Il y a toujours deux fois la même idée. Le soleil brillait. Point. Il faisait très beau. Bah oui, Joël, si le soleil brille, il fait très beau. Tout est comme ça.
Il y a aussi beaucoup de détails.
Il y a des détails, des détails.
On ouvre la porte et on la referme.
Bon, mais je vous dis, il y a une sorte de verve sympathique de ce garçon, un truc assez irrésistible. Mais il faudrait que ça soit plausible, un tout petit peu.
Je peux te dire que quoi que tu exprimes comme opinion sur ce livre, et vous n'empêcherez pas ce livre d'être le succès incroyable que c'est, Frédéric.
C'est un pastiche, je pense, parce que le titre, l'énigme de la chambre 622,
oui,
c'est un pastiche
à Gaston Leroux,
de
oui.
Gaston Leroux, oui, et donc il faut le prendre comme une parodie, en fait, une parodie d'enquête à la Hercule Poirot ou ce genre de truc.
Ce qui est déjà pas mal.
Ça ne se prend pas tellement au sérieux. Il gaze les souvenirs avec Bernard de Fallois, qui sont bien quand il va lui rendre visite la veille de sa mort à l'hôpital américain et que de Fallois s'est habillé très chic et fait semblant d'être très en forme alors qu'il meurt le lendemain.
Il y a des
choses comme ça émouvantes. C'est assez surprenant dans un livre grand public de mettre des choses qui n'ont rien à voir avec l'intrigue et qui sont purement des souvenirs littéraires, en fait, de vie littéraire. Bref. Par ailleurs, je connais bien Verbier.
Oui.
En particulier le Farm Club, que je vous recommande.
Il y a un très bon aussi festival de musique classique l'été.
Voilà. Et je suis passé beaucoup d'années d'hiver à Verbier. Et c'est bien d'écrire un roman sur Verbier, puisque c'était la station...
T'aimes bien les étendues blanches, hein, toi.
Voilà, oui. Neige et tout
ça.
Le
luxe.
Et puis c'était la station de sport d'hiver préférée de Truman Capote. Et en plus...
C'est là où la merveilleuse comédienne Marthe Keller... que j'adore, a un petit chalet.
Ah bon? Très bien. Vous voyez que c'est important
génial,
d'écrire sur Verbier.
Elle n'est pas dans le livre, donc je le regrette, mais.
C'est vrai.
Il y a page 18, Joël qui boit de la vodka Beluga, celle avec un esturgeon dessus. Et donc, si on boit cette bonne vodka, et qui joue un rôle très important dans la fin du livre, hein.
En fait, t'as adoré Joël Dicker, Frédéric?
Alors, sauf l'affaire des banquiers qui est incompréhensible.
Mais c'est très long, hein, d'en dire ça.
Ça, malheureusement, c'est très ennuyeux. C'est dommage qu'il n'ait pas fait juste un petit peu de Verbier et un peu de Bernard de Fallois. Une centaine de pages, ça m'aurait beaucoup plus plu.
Arnaud?
Je n'ai pas manqué de le demander à l'éditeur qui a refusé de me l'envoyer.
Ah bon?
Voilà, oui.
Tu fais peur.
J'étais extrêmement peiné pour deux raisons. La première, c'est parce que j'ai beaucoup de respect pour Bernard de Fallois et que ça m'aurait plu précisément de lire ses souvenirs. C'est un personnage vraiment important et intéressant des lettres qui a en plus publié sans doute le plus grand livre de critique littéraire. On lui doit l'apparition du Contre Sainte-Beuve de Proust, qui est vraiment le chef-d'œuvre.
On vient de publier l'ensemble de ses chroniques de cinéma de Bernard de Fallois, chez d'ailleurs de Fallois, qui sont éblouissantes. Hein.
Et la deuxième raison pour laquelle je tenais à le lire, c'est que dans le précédent roman de Joël Dicker, La disparition de Stéphanie Maillard, que pour le coup on m'avait envoyé, il était question d'un critique littéraire qui était un personnage absolument odieux, qui avait tous les défauts, adipeux, odieux, prétentieux, fat.
Toi aussi,
et surtout ajouté Joël Dicker, qui critiquait les livres sans les avoir lus. Et donc, c'est pour ça que ça m'intéressait, vous voyez, de le lire. Et malheureusement, ce n'est pas advenu. Je voudrais juste dire que je pense que la critique littéraire est un des plus bels enfants de la liberté d'expression, mais c'est aussi sans doute le plus fragile, et que les éditeurs devraient y faire attention avant qu'elle disparaisse complètement.
Michel, as-tu lu, toi, le roman de Joël Dicker ?
Je suis allé assez loin dans le livre, à peu près à la moitié, sans déplaisir aucun, je dois dire, le temps de me dire que finalement...
On est en train de faire, entre parenthèses, une petite réhabilitation publique de Joël Dicker, hein ?
Oui, involontaire.
Involontaire.
Non, mais enfin, peu importe. Ouais. Bon, d'accord, c'est pas Thomas Mann, Joël Dicker, mais c'est pas non plus Marc Lévy. Il y a de la marge entre les deux. Et pour faire exister un livre, que effectivement, je n'ai pas terminé parce que c'est vraiment trop long et que Dicker n'a pas assez de coffre pour faire résonner quelque chose qui pourrait durer assez aussi
longtemps. Pourtant, ça se passe en Suisse.
Mais sinon, je sais pas, enfin, j'étais un peu étonné, je ne sais plus où, j'ai lu un article au vitriol sur ce livre, comme si l'armée de Corée du Nord allait entrer dans Paris et qu'il fallait se dresser contre... Non, enfin, il n'y a pas de quoi...
Moi, j'ai vu pour la première fois de grands portraits, des rencontres, notamment dans le monde des livres, avec Joël Dicker, qui est passé du côté presque de la notoriété littéraire.
Donc voilà, bon. c'est ça, je pense qu'Olivia disait très justement tout à l'heure, c'est sympathique. En effet, ça marche comme un livre qui est entretenu à la sympathie avec le lecteur, avec son histoire, sa manière de raconter les choses. C'est pas génial, c'est pas Thomas Mann, en effet. Mais bon, voilà, c'est...
L'énigme de la chambre 622, c'est aux éditions de Fallois, et c'est donc le nouveau roman de Joël Dicker, s'il vous plaît, mesdames et messieurs des éditions de Fallois, envoyez le livre à Arnaud Vivian. Un mariage en 10 actes, beaucoup plus court, un livre du Britannique Nick Hornby, l'auteur de Juliette Naked et de Funny Girl, traduit par Christine Barbaste chez Stock, où s'affrontent un homme et une femme quadragénaire. Lui, Tom, est ancien critique de rock, donc il est forcément au chômage, et en dépression, elle, Louise, est gériatre, et elle fait bouillir la marmite, ils sont mariés. Mais au bord de la crise de nerfs et du divorce, ils ont deux enfants. Et ils se retrouvent dans un pub situé exactement en face du cabinet de la psy pour des séances de thérapie de couple. Ils hésitent un peu quand même à y aller. Hein. Bref, on comprend très vite que, au moins au début, que Tom a quitté le domicile familial pour aller habiter dans un squat parce que Louise le trompait, enfin l'a trompé 4 fois. De son côté, elle lui reproche d'avoir voté en faveur du Brexit. Et il se trouve que Louise, elle travaille avec beaucoup d'infirmières, d'aides-soignants venus de l'Europe entière. Un livre en 10 actes, vraiment 10 actes, que Stephen Frears vient d'adapter pour la BBC. Et c'est donc toute la logique, je dirais, avec des formules assez drôles, je dois avouer, d'un Brexit conjugal. Celui-là, tu l'as reçu et lu, Arnaud.
Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas vu la série, on m'en a parlé, on m'a dit qu'elle était formidable.
C'est des petites pastilles de 10 minutes avec Rosamund Pike, qui est formidable. Il a gardé le texte quasiment de Hornby, mais avec des mini-épisodes.
Alors, évidemment, le titre anglais, The State of Union, est plus fort, plus parlant. Et parce que, évidemment, il y a quand même cette question du Brexit qui est là. Il s'agit d'un divorce. Donc, il y a une espèce de métaphore, là, du couple. Ça fait penser à Un garçon, une fille, là, la série avec du jardin, c'est exactement le même système. Dire que c'est un roman, c'est un peu exagéré. C'est que là, on n'est pas loin du storyboard quand même. C'est essentiellement des dialogues. Il y a très peu de.
Ça pourrait être du théâtre, hein,
oui.
Du bon théâtre.
Oui, ça pourrait être du théâtre aussi.
De la bonne comédie.
Il y a quelques didascalies et un décor unique, donc le pub et puis les deux personnages. Tout ça est. C'est à la fois intelligent, tendre, politique, justement. Le personnage du critique de rock m'a beaucoup touché quand il se compare à un maréchal Ferrand en disant voilà, j'ai le statut aujourd'hui d'un maréchal Ferrand. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Sauf que le maréchal Ferrand travaille toujours et il est payé pour ce qu'il fait, alors que le critique de rock de moins en moins.
Et ce n'est plus rémunéré. Donc il y a tout ce contexte. Et puis c'est pas si drôle que ça. Mais je trouve qu'il y a une tendresse qui se dégage, mais comme souvent chez Nick Hornby, hein, qui a une petite capacité dans la délicatesse psychologique, qui fait vraiment le charme de ce livre.
Il y a des métaphores qui sont très jolies. Il y a beaucoup beaucoup de métaphores parce que le couple est comparé à tout, pas simplement à l'état de l'union ou au Brexit, mais aussi à il y a de très jolies métaphores, notamment animales. Olivia.
Bah oui, il y en a une très drôle. Parce que ça marche parce qu'ils sont très drôles et irrésistibles tous les deux, chacun à leur façon. C'est comme une pièce de théâtre tragicomique, puisqu'il y a unité de temps, de lieu et d'action. Tout le problème, c'est est-ce qu'ils vont divorcer ou pas. Je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que c'est un livre mine de rien, sous couvert d'une très grande légèreté. Je trouve qu'il interroge pas mal le couple. Qu'est-ce que tu fais après 20 ans quand chacun a changé un peu différemment? Qu'est-ce qui se passe quand la passion a disparu et que finalement ce qui relie un couple, c'est de regarder ensemble Game of Thrones? Est-ce que ça suffit ou pas? Et tout ça très genré parce que lui, il est très bloqué sur le fait qu'elle l'a trompé, donc il veut savoir combien de fois, comment, etc. Alors que elle est plus dans une réflexion pour savoir comment elle a pu réussir à tromper ce mari.
Elle répond, elle dit « je m'ennuyais et tu m'ennuies ».
Oui,
Hein.
Absolument. Mais c'est plus compliqué que ça aussi. Et après, il y a des métaphores géniales. J'adore quand lui se prend pour un héros. Il lui dit qu'il est un héros, qu'il a beaucoup de courage et tout. Et elle lui répond, ça doit être très difficile d'avoir deux globes terrestres entre les jambes. Et ils font courir la métaphore sur plusieurs pages. C'est très drôle. C'est aussi, comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qui a voté contre le Brexit. Mmh. Et Arnaud, tu as dit plusieurs fois à cette émission, et je vais citer Arnaud, que le Brexit avait donné lieu à des romans formidables.
Formidable.
Et bien, c'en est encore la preuve.
Et il y en a encore à venir, je peux...
Ah oui,
oui, notamment, on en parlera dans quelques semaines. Frédéric.
Ah non, mais alors moi, grosse déception, parce que je suis fan de Nick Hornby. Oh. Pour moi, Carton jaune, c'est le meilleur roman jamais écrit sur le foot.
Sur le foot. Je rappelle que Nick Hornby est un fan d'Arsenal, c'est sa
Haute fidélité,
passion.
C'est un chef-d'œuvre sur le journalisme musical, il n'y a pas eu de meilleur livre là-dessus. Et là, franchement, il publie le scénario d'une série. Voilà, un couple qui s'engueule pendant 10 chapitres. Dans le genre roman dialogué sur une tromperie, il y avait Tromperie de Philip Roth, qui était nettement supérieur. C'était beaucoup plus tordu. Là, c'est des dialogues marrants. Franchement, au bout de la troisième fois où on les retrouve dans le pub, moi, j'en pouvais plus. J'en avais un peu marre de ce couple qui s'engueule.
Ah, mais je trouve pas, parce qu'à chaque fois, il le fait décoller vers autre chose.
Enfin, oui, mais j'ai l'impression que ça tourne en rond au bout d'un certain temps. Ah, et puis, bon, quand tu penses qu'en 1928, Séverine, elle allait l'après-midi tromper son mari avec Mathilde, Charlotte, Marcel, Adolphe, l'homme des Halles, l'homme des berges de la Seine. Et puis là, finalement, lui, il est énervé parce qu'elle a juste couché 4 fois avec Mathieu. Eh ben, il y a une régression.
C'est le prétexte du divorce. Le fait qu'il ait voté pour le Brexit est peut-être une raison plus importante que
c'est ça qu'elle supporte pas.
Michel.
Ah, moi, j'avoue que j'ai trouvé ça éblouissant. Mais alors, naturellement, je viens d'écouter très attentivement Frédéric parce que je vais lire les précédents, je les ai pas lus. Donc, peut-être que Frédéric a raison.
Il faut aimer le foot et le rock, hein.
J'aime le rock et je ne déteste pas le foot.
Ah, tu vas adorer Haute Fidélité, hein.
Donc, j'ai trouvé ça époustouflant, très drôle. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Des petits dialogues de rien qui vont en réalité très loin dans la perception des choses ou de la réalité quotidienne. J'ai trouvé ça vraiment très, très fort. Mais j'ai entendu Frédéric.
Il y a cette scène que j'aime beaucoup. Elle le pousse à peine en sortant du pub, mais à peine vraiment. Il fait semblant de tomber, d'avoir un mal de chien. Et la séance d'après, il arrive avec le bras plâtré.
Oui.
En disant, tu m'as cassé le bras. Évidemment, tout ça.
C'est un faux plâtre. Non, c'est sur Internet.
C'est vraiment... c'est très étonnant.
Et puis, alors, pour répondre à Frédéric, je peux comprendre que tu aies des réserves, mais c'est pas prétentieux, je veux dire.
Il ne prétend pas faire un grand livre,
il s'est amusé.
Ça doit être super, les
bouquins. C'est comment on peut dire, une novélisation d'un scénario de film, quoi.
Oui, mais ce qui est chouette, c'est que chaque phrase... elle porte en elle quelque chose, c'est aussi une satire de l'époque. Il reproche à sa femme de l'emmener à des dîners emmerdants. Il dit, je ne veux plus jamais être assise à côté de quelqu'un qui a fait un trekking en solo dans les Andes, je sais pas.
Mais moi j'ai bien aimé un truc vrai, c'est un des principaux problèmes de ce couple, c'est de nettoyer le vomi du chat. Et j'ai ce problème moi aussi, et c'est vrai que c'est un souci conjugal.
Et puis, il faut dire la vérité, c'est beaucoup plus court que l'énigme de la chambre 622. Et c'est donc un mariage en 10 actes. C'est signé Nick Hornby et c'est chez Stock, La Commande au tiroir de couleurs. Le premier roman chez Lattès de la chanteuse Olivia Ruiz, révélée, vous le savez, par la Starac, à qui on doit des albums qui ont cartonné, comme J'aime pas l'amour et surtout La femme chocolat. La narratrice hérite de sa grand-mère adorée, une mystérieuse commode dont, en une nuit, elle va ouvrir les 9 tiroirs de couleurs qui contiennent la vie réinventée de cette grand-mère, ex-républicaine espagnole réfugiée dans le sud de la France, et puis avec elle de plusieurs générations de femmes tiraillées entre ces deux pays. Est-ce que le passage de la chanson à la littérature est réussi, Frédéric?
Alors, à la Starac, elle avait déjà été victime d'une injustice, puisque c'est Jennifer qui avait
Absolument.
Gagné, alors qu'elle méritait d'être la gagnante, à mon avis.
Ça, c'est ton goût, ça.
Ça, c'est mon goût personnel. Je rappelle qu'il y avait aussi Jean Pascal dans cette promotion de la Starac.
Tu n'as rien manqué de la Starac.
Je suis un spécialiste, oui. Jean Pascal, qui est de Saint-Jean-de-Luz.
On peut avancer un peu dans
l'émission. Oui, alors, le livre. Non, c'est vrai.
Je rappelle qu'on est le jour de la fête de la musique, hein.
Pour moi, cette histoire, il faut encore et toujours la raconter. Parce que pour un de mes romans précédents, j'avais travaillé sur les camps de concentration français. Et là, il est question du camp d'Argelès-sur-Mer, où ont été donc enfermés des réfugiés espagnols, 100 000, ou, enfin, un chiffre abominable, traité très 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 mal. C'est le début du livre d'Olivia Ruiz, et je pense que son regard est très intéressant là-dessus. Évidemment, il y a eu des témoignages nombreux, il y a eu aussi le livre de Lydie Salvert, « Pas pleurer », qui a eu le prix Goncourt, sur sa mère, réfugiée espagnole aussi. Mais là, c'est une petite fille. Et il y a une grande différence entre parler de sa mère ou parler de sa grand-mère. Parce qu'il y a une distance et un étonnement, et une sorte de naïveté, en fait, horrifiée, d'Olivia Ruiz, qui découvre et réinvente cette horrible chose, cette injustice, cette douleur, cet exil forcé. Et voilà. Et on a l'impression qu'elle regarde ça presque comme si elle regardait de la science-fiction. Quelque chose qui l'étonne tout le temps, de se dire, ils ont vécu ça, ils sont passés par là. Alors, il y a parfois des facilités. Par exemple, elle dit, un froid de connard cette nuit-là. Ah non, pardon, de canard. Moi, je pense qu'il fallait juste laisser un froid de connard.
C'est pas très grave.
Et pas s'excuser. Mais voilà, je pense deux générations, c'est peut-être le temps nécessaire pour se détacher d'un événement et le romancer encore mieux.
Mais tu ne dis pas vraiment si tu as aimé ou pas, hein.
Si, je pense que c'est un livre nécessaire, avec un peu de naïveté, mais que il y a une règle, c'est qu'on ne dit jamais de mal des premiers romans dans la critique littéraire. Et
en tout cas, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'elle aurait eu du mal à en faire un album, alors que c'était plutôt destiné à un livre Michel.
Pour un premier roman, c'est plutôt pas mal, je trouve. Moi, j'ai trouvé ça à la fois grave et charmant. Il y a une sorte de minois.
Ça, c'est pas très
quoi
gentil ni politiquement correct.
C'est pas méchant. C'est pas méchant.
Non, mais c'est un peu méprisant.
Un équivalent
un petit minois, c'est un peu méprisant.
Pas dans ma bouche, mais... Donc voilà, donc j'ai pas énormément de choses à dire en plus de ça. Voilà. Non, c'est bien, c'est le premier roman, c'est bien.
Ce que j'aime chez toi, c'est la conviction. C'est-à-dire que quand tu penses quelque chose, tu vas jusqu'au bout.
Mais je me suis un peu ennuyé, c'est vrai.
Et avec un certain lyrisme, Arnaud.
Ah bah, d'abord, j'ai lu une des phrases les plus drôles dans ce livre. Ça fait toujours du bien, je vous la lis. « Chaque mardi, j'appréhende le mercredi, si proche de ce jeudi et de ce vendredi, anxiogène. » C'est vrai que ces jours sont tous très très proches les uns des autres. C'est fou comme le mardi.
Il n'y a pas de dimanche. Il n'y a pas de dimanche, là.
Non, il n'y a pas de dimanche.
On pourrait faire une sorte de rébus et dire que finalement, dimanche arrive.
Donc, voilà. Donc il y a effectivement ces naïvetés. Après... une personne qui offre une prostituée à son grand-père, mais fondamentalement
ça, c'est la fin,
sympathique.
Oui. Oui.
Je veux dire, je trouve ça, la fin de ce livre est absolument...
c'est joyeux.
Merveilleux de ce point de vue-là. Et c'est vrai que on est touché par cette naïveté, avec effectivement ce qu'elle peut avoir d'un peu grave. Moi, j'ai toujours cette période, la guerre d'Espagne, etc., est toujours une période qui me fascine. Je suis toujours... heureux d'avoir des informations à ce sujet, mais c'est vrai qu'elle le fait avec tendresse et sans doute une naïveté qui finit par emporter presque le morceau.
Bon, Olivia.
Bah parce que ce qui est intéressant dans le livre, après on adhère ou pas, c'est le parti pris d'Olivia Ruiz de raconter une histoire qui est quand même extrêmement sombre. En tous les cas, la première partie, puisque ce sont trois petites filles auxquelles leurs parents disent au revoir et les petites filles ignorent qu'elles ne reverront jamais leurs parents. Pour les envoyer en France, elles ne parlent pas un mot de français, elles ne savent pas chez qui elles vont. Et parents dont la tête est mise à prix en Espagne, qui vont choisir, si j'ai bien compris, de suicider ensemble. Et de cette histoire très sombre, Olivia Ruiz prend le parti de la raconter exactement à l'aune du titre, c'est-à-dire avec toutes les couleurs. Donc, de quelque chose de très sombre, elle fait une sorte d'objet acidulé, à l'image de ce titre que moi je trouve très mauvais quand même, la commode au tiroir de couleurs, jamais je...
C'est ce mot de commode là
la commode...
T'as pas envie de demander ça à ton libraire.
Voilà, moi je trouve vraiment que le titre est raté et... En même temps, il donne tout à fait le parti pris d'Olivia Ruiz, qui est de raconter uniquement les jolies choses. Moi, j'ai trouvé que ce qui était très intéressant, c'était le passage du milieu, avec l'arrivée de ces femmes dans cet immeuble de réfugiés à Narbonne. Là, il y a un vrai truc qui se passe. C'est un livre assez maladroit, souvent, dans son expression, mais très émouvant.
C'est la commode au tiroir de couleurs, c'est signé Olivia Ruiz et c'est chez Lattès. Et on termine avec Requiem pour une ville perdue, traduit chez Actes Sud par Julien Lapert de Cabane. C'est le livre d'Asli Erdogan, une journaliste et romancière turque, cible de son homonyme, vous le savez, le président Erdogan. Elle est une icône de la liberté d'expression. Elle a été enfermée en 2016 pendant plusieurs mois dans la prison d'Istanbul. Acquitté tout récemment des accusations, je cite, de tentative de porter atteinte à l'intégrité de l'État et d'appartenance à un groupe terroriste. C'était en février dernier. Elle a reçu le prix Simone de Beauvoir 2018 et elle est désormais exilée à Berlin, d'où elle nous envoie ce livre qui est relativement court, qui est un recueil de textes anciens, une évocation nocturne, presque romantique d'Istanbul et de son cher quartier de Galata. Titre, pour vous donner une idée du livre, de certains chapitres, Justice dans la mort, curriculum vitae pour un mur de prison, ou ce pays qu'on appelle la vie. Je suis, dit-elle, la somme de tout ce que j'ai perdu et de ce qu'il me reste à perdre, du sang, des mots et du silence des lèvres. Voilà ce qu'écrit Asli Erdogan. Vous me dites ce que vous en pensez, Olivia?
Moi, je trouve ça magnifique. Je pense que c'est un livre qu'il faudrait lire à haute voix, parce qu'on entend sa voix. C'est un livre profondément désespéré d'une femme qui a tout perdu, qui est dans la nuit, dans la solitude, dans la détresse. Et elle dit au milieu des tasses de café froid et d'un cendrier qui déborde. Et même le récit ne marche plus pour raconter son histoire. Donc elle a recours à la poésie. Moi, je trouve que c'est un livre de poésie pure pour dire ce qui est indicible, c'est-à-dire ce qui lui est arrivé, tout ce qu'on lui a volé. Et puis en même temps, il y a des réminiscences de l'Istanbul qu'elle aime, de ce quartier où elle habitait, de son enfance. Je trouve ça très beau. Et moi, j'ai été très scandalisée de toute façon par la manière dont on avait si peu parlé d'elle, qui a eu sa santé ruinée, qui est à moitié morte physiquement, qu'on a laissé croupir en prison.
Et qui était en février dernier encore menacée de
encore
perpétuité.
Encore menacée de perpétuité. Et elle disait que si elle retournait en prison, elle en mourrait parce qu'elle avait plus la santé pour résister. Et je trouve qu'on a été très muet et très lâche de pas réagir plus au destin de cette femme qui a été vraiment en proie à des jugements sadiques, de l'envoyer en prison, de la faire ressortir, que ce qui s'est passé autour d'elle est proprement scandaleux.
Et puis c'est un livre qu'on peut lire, je dirais, presque dans le désordre.
Absolument.
Parce que ce sont des textes
vraiment
séparés.
Comme un recueil de poésie, je trouve.
J'ai pris un texte, un autre. Ouais. Arnaud?
Oui, alors faut quand même dire que c'est un livre qui date de 2009, hein, donc il est absolument pas question de ce qui va lui arriver quelques années plus tard, dont on vient de parler, qui est absolument, elle n'est pas la seule à avoir vécu ça. Énormément de journalistes et d'intellectuels ont été emprisonnés après ce coup d'État très nébuleux en Turquie. Et j'ai lu une interview d'elle, et sa vie, c'est terrible, sa vie.
Terrible,
elle,
c'est terrible.
Elle a fait une tentative de suicide à 10 ans. Ses parents eux-mêmes avaient été emprisonnés et torturés. Elle a refait une tentative de suicide à 22 ans. Elle a été chercheuse en nucléaire, c'est-à-dire pas du tout dans la littérature. Puis elle a tout abandonné d'un coup pour écrire.
Pour autant, elle disait dans cette interview qu'elle refusait d'être considérée comme un écrivain martyr. Elle ne veut pas qu'on la plaigne. Elle ne veut pas être un martyr.
Une martyre. Ouais.
Après, je dois vous avouer que je suis assez imperméable à cette prose poétique. Ça ne me touche pas du tout.
Michel?
J'allais dire la même chose. C'est tout à fait, évidemment, impressionnant. Je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit. Et il n'est pas question de le critiquer. Mais il y a une saturation du registre poétique dans ce livre qui fait qu'on étouffe. Et qui fait que à la lecture, à la longue, ça ne marche pas bien. J'ai eu le même problème qu'Arnaud. Je me suis un peu ennuyé. J'aurais préféré quelque chose de plus détendu. Enfin, je sais bien qu'on peut pas dire ça. Enfin, c'est scandaleux même de dire ça. Mais voilà.
T'es plus sensible à la naïveté d'Olivia Ruiz qu'à la poésie.
Non, j'ai pas été sensible au livre d'Olivia Ruiz. J'ai trouvé c'était charmant.
Paradoxe du docteur Crépus.
Et non. Voilà. C'est la poésie. C'est moi, j'aime bien les poèmes qui sont très 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 légers, comme ça, deux trois mots.
Mais c'est pas de la poésie. Encore une fois, ce sont des textes en prose d'abord.
Et... Oui, mais quand même.
Et peut-être que si tu étouffes, c'est elle a réussi à transmettre.
On est bien dans le registre d'une prose poétique.
On est tout à fait dans le registre d'une prose
tous
poétique
les textes
qui souffre de
sont
saturation.
Des points de vue métaphoriques.
Qui souffre de ne pas
non,
avoir de.
Dans les descriptions d'Istanbul, c'est tout à fait.
Du quartier de Galata.
Reconnaissable. Frédéric.
Il y a de rares passages réalistes, mais je pense que ça doit être mieux en turc. Tu vois, tu aurais pas dû lire une traduction.
Tu n'as pas lu.
Tu aurais dû le lire en turc. C'est compliqué de traduire la poésie. Non, mais c'est vrai, la poésie. Donc là, mais je suis un peu comme Michel et Arnaud. J'ai pas réussi à rentrer. Je trouve que c'est hermétique. Je trouve que c'est disparate. Bon, voilà, ce sont des bribes très lyriques et parfois avec aussi parfois. Moi, par exemple, qu'il est dur de fleurir. Où le ciel est de nuages et de pluie et la nuit tombe tôt sur la forêt de mon enfance. Ça fait un peu beaucoup d'images dans une même phrase. Bon, voilà, il faut vraiment séparer l'œuvre de l'artiste. Dans le cas d'Asli Erdoğan, je crois que voilà, c'est
un peu embêtant, quand même.
C'est ce que disait Proust dans Contre Sainte-Beuve, et il avait mille fois raison.
Je vous trouve très injuste.
Moi aussi, parce que mais oui, voilà. C'est métaphorique, mais...
Il faut accepter ce principe, voilà, d'écrire... C'est pas effectivement un livre ni sur son histoire, elle ne veut pas la raconter telle qu'elle, ni un livre réaliste sur Istanbul, mais je trouve que c'est des moments très beaux, moi. Très,
lisez-le à haute voix, les garçons, vous allez voir. Il faut le lire à haute voix.
Oui, mais je suis d'accord.
C'est... Requiem pour une ville perdue, c'est chez Actes Sud et c'est signé Asli Erdoğan. On a vraiment du temps maintenant, puisque c'est la période où les auditeurs vont peut-être partir avec le besoin d'avoir des conseils de lecture. Donc j'ai réservé pas mal de temps pour que vous nous conseilliez un ou deux livres à emporter avec soi. Et on va commencer avec un choix d'Olivia.
Les fables de la Fontanelle, Aquarium nos vies sexuelles de Sophie Fontanelle. Un livre auquel tu n'es pas étranger, Jérôme. Non pas qu'on y découvre ta vie sexuelle, mais parce que je crois que tu avais lu une fable de Sophie Fontanelle et tu l'as encouragée à continuer. Ce sont des vraies fables, écrites en vers, à la fois très drôles, très pertinentes et très impertinentes, sur la vie sexuelle des gens, l'amour dans la vie des gens aussi. Elle avait fait un livre qui s'appelait comme ça, à l'ère de Tinder, je sais même pas comment on dit, Tinder. À l'ère de MeToo. Et chacune porte un titre souvent assez drôle. Sophie Fontanelle avait commencé avec la fable de l'homme qui tardait à répondre, en écrivant elle-même une réponse à un homme qui justement tardait à répondre. Et puis elle a continué. J'aime beaucoup la fable de l'homme mené par son imprévisible engin. La fable de la femme qui voulait rire même au lit. C'est ma préférée, où elle explique que vraiment l'humour passe très mal dans un lit. Et la femme de sa fable, je ne sais pas si c'est elle, à cette idée, mais elle se retient au moment X, de s'écrier « Entre ici Jean Moulin ». Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Mais pas le monsieur. C'est chez Robert Laffont et c'est vraiment très amusant.
Le conseil d'Arnaud.
Voilà, c'est pas du tout un livre littéraire, c'est une enquête journalistique d'une journaliste française qui s'appelle Stéphanie Chaillet, qui vit à New York. Et il se trouve, donc le livre s'appelle Fantastica, ces substances interdites qui guérissent. Et en fait, elle a eu Stéphanie Chaillet a eu un cancer du sein et elle a découvert que la chimio pouvait être adoucie en prenant des champignons hallucinogènes qui évidemment sont interdits, y compris, enfin pas. D'ailleurs, il y a deux États américains qui les autorisent à des fins récréatives, mais en tout cas qui sont interdits à New York. Donc elle a été sur le dark web, elle a acheté des champignons hallucinogènes avec des bitcoins, de la monnaie virtuelle. Elle a été livrée très rapidement par une jeune coursière à vélo. Et donc elle a pris ces champignons hallucinogènes et elle a commencé à enquêter sur finalement ces substances interdites, prohibées, qui guérissent. Et notamment, alors il y a évidemment la fameuse drogue de la liane que l'on connaît bien ici, puisque Amélie Nothon en a beaucoup parlé, et qu'elle en est friande. Elle a même écrit un livre sur le sujet que son éditeur Albin Michel a refusé de publier. C'est tout à fait étonnant. Et donc il est question de la drogue de la liane, de ce chamanisme, de ce retour du chamanisme aux États-Unis, mais surtout il est question du LSD, qui est, alors c'est une enquête vraiment très précise mais très vivante, avec beaucoup de portraits à la rencontre des chercheurs, etc. Et le LSD est de nouveau étudié de manière très
on en avait parlé
scrupuleuse
au moment de la sortie du livre.
Tout à fait. Tout à fait. Mais là, c'est la réalité. C'est des recherches qui sont financées beaucoup par les milliardaires de la Silicon Valley, et notamment l'utilisation du LSD en fin de vie pour adoucir le trépas. Et vraiment, lisez ce livre, c'est très intéressant. Et Frédéric, ça devrait te passionner.
Pourquoi moi
un bon trip de LSD avant de mourir.
Il y a eu beaucoup de grands auteurs qui sont intéressés au LSD, de Huxley à notre ami L'Ecclésio.
Et c'est chez
Grasset.
Mon conseil, un petit livre qui devrait te plaire, parce que ça se passe dans ta région natale, Arnaud, c'est « Ce bel été 1964 » de Pierre Filoche, aux éditions Serge Chaffran, une version tourangelle du Blé en herbe, où un garçon de 15 ans découvre l'amour dans les bras d'une femme mûre et une cabane de jardin. Un très joli roman vintage signé par un auteur de polar qui avait publié dans le Poulpe, collection du Poulpe, un livre dont j'avais beaucoup aimé le titre, qui est Eros les Thanatous. Eros les Thanatous. Pierre Filoche, ce bel été 1964. Le conseil de Frédéric.
Alors, vous avez encensé ici, et à juste titre, le roman excellent de Mary Gateskill, Fais-moi plaisir, et qui était sur le lynchage d'un homme qui avait été un peu trop familier avec une collègue de bureau. Et il y a une version un peu française de ça, c'est le petit polémiste Dylan Durand-Cohen chez Actes Sud, qui est aussi sorti juste avant qu'on nous enferme. C'est l'histoire d'un engrenage. Le héros fait une plaisanterie sexiste. Il est chroniqueur, payé par l'État. Et la plaisanterie, c'est « Je ne supporte pas de travailler pour les nanas. C'est toujours un cauchemar. » Fin de citation. Et il est immédiatement dénoncé sur les réseaux sociaux, notamment par les gens qui étaient là dans le dîner où il a prononcé cette phrase. Il est dénoncé, ça fait boule de neige, il perd son travail, il a un procès. Et Ilan Durand-Cohen fait un livre très noir, mais très amusant, sur cette façon de détruire les gens pour un mot, pour une phrase, pour un propos, et cette réduction des libertés. C'était aussi le sujet de la tâche de Philip Roth, qui décidément a traité quand même beaucoup de sujets d'actualité.
Que Joël Guilherme avait pastiché.
C'est Actes Sud, le conseil de Michel pour finir l'émission.
Alors moi, je me suis régalé pendant cette période d'enfermement avec un classique, c'est Alexandre Dumas, Les mille et un fantômes. 1500 pages, c'est absolument éblouissant. J'avais jamais lu ce Dumas. Et donc j'ai passé...
C'est en poche, c'est en...
Alors je l'ai, alors je sais pas si ça existe encore, c'était chez Marabout à l'époque. Je sais pas si Marabout existe encore, mais ça doit bien exister. Et c'est franchement, enfin, pour une période de grandes vacances, on a du temps, etc. C'est vraiment époustouflant. Et puis sinon, au hasard, en folio, un Saint-Simon, et c'est toujours aussi incroyable.
Je vois que tu n'as pas changé avec le confinement, mon cher Michel. Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume. Franceinter.fr. Merci beaucoup, Olivia de Lamberterie, Arnaud Vivian, Frédéric Becbédé et Michel Crépu, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Selam, et ce soir au théâtre de l'Alliance Française à la Technique. Et je les remercie. Il y avait Bastien Lefort, Yvan Charby et Charles Cérès. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Dans une semaine, on parlera de cinéma à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.